Chapitre 9. Hyperespace. 31. Êtes-vous prêt, Janov ? Demanda Trévise. Pellerat leva les yeux du livre qu'il visionnait et répondit :
Vous voulez dire pour le saut, mon brave compagnon ?
Pour le saut hyperspatial, oui. Pellerat déglutit.
Bon. Vous êtes sûr que ça ne sera aucunement inconfortable ? Je sais que c'est idiot d'avoir peur, mais m'imaginer réduit à l'état d'immatériel tachyon que personne n'a jamais été capable de voir ou de détecter.
Allons, Janov. C'est un truc au point maintenant, parole d'honneur. Le saut est pratiqué depuis 22 000 ans, c'est vous-même qui l'avez dit. Et on n'a jamais eu à déplorer le moindre accident en hyperespace. Il pourrait certes arriver qu'on émerge dans un coin pas très confortable, mais après tout, l'accident se produirait dans l'espace normal, et pas quand nous sommes composés de tachyons.
Bien maigre consolation, me semble-t-il.
Mais il n'y aura pas non plus d'erreur à la sortie. Pour être franc avec vous, j'ai même failli procéder à l'opération sans vous prévenir, si bien que vous ne vous en seriez jamais aperçu. Et puis, réflexion faite, je me suis dit qu'il vaudrait mieux pour vous la vivre en toute connaissance de cause, constater que ça ne soulevait pas le moindre problème, et pouvoir ainsi l'oublier totalement par la suite.
Eh bien, Pellerat restait dubitatif. Je suppose que vous avez raison. Mais honnêtement, je ne suis pas pressé. Je vous assure que non, non. Vieux compagnon, j'accepte vos assurances sans l'ombre d'un doute. C'est simplement que... Avez-vous déjà lu « S'enterrestil mat » ?
Bien sûr. Je ne suis pas analphabète.
Sans doute, sans doute. Je n'aurais pas dû vous demander ça. Est-ce que vous vous en souvenez ?
Je ne suis pas non plus amnésique.
J'ai apparemment le don de mettre les pieds dans le plat. Ce que je veux simplement dire, c'est que je ne cesse pas de repenser au passage où S'enterrestil et son ami Ben, après avoir fui la planète 17, se retrouvent perdus dans l'espace. Je revois encore ces scènes absolument fascinantes au milieu des étoiles, dérivant paresseusement au milieu du silence profond, immuable. Je n'y ai jamais cru, vous savez. J'ai adoré ça. Ça me touchait, mais je n'y ai jamais vraiment cru. Mais à présent, alors que je viens tout juste de me faire à l'idée d'être dans l'espace, j'en fais maintenant l'expérience et... C'est idiot, je sais, mais je n'ai plus envie de lâcher. C'est comme si j'étais S'enterrestil.
Et moi, Ben ? Ajouta Trévise, avec un soupçon d'impatience.
En un sens. Les quelques pâles étoiles autour de nous sont immuables, excepté notre soleil, bien sûr, qui doit en ce moment s'évanouir dans le lointain, mais que nous ne voyons pas. La galaxie garde sa majesté embrumée, immuable. L'espace est silencieux. Et rien ne peut me distraire,
sauf moi.
Sauf vous. Mais enfin, Golan, mon bon, vous parlez de la Terre et tâchez de vous enseigner des rudiments de préhistoire a également ses plaisirs. Et je n'ai pas plus envie que cela cesse.
Oh, mais ça ne risque pas. Pas tout de suite, en tout cas. Vous ne croyez pas qu'on va réaliser notre saut et se retrouver illico à la surface d'une planète, quand même. On sera toujours dans l'espace, et le saut n'aura pas pris le moindre temps mesurable. Il peut fort bien s'écouler une semaine avant que nous ne touchions terre. Alors vous pouvez vous détendre.
Par toucher terre, vous ne voulez sûrement pas dire Gaïa. Il se pourrait fort bien qu'on en émerge très loin.
Je le sais, Janov. Mais nous serons tout de même dans le bon secteur, si toutefois vos renseignements sont bons. Dans le cas contraire, eh bien...
Pellerat hocha la tête, lugubre.
À quoi bon être dans le secteur convenable si nous ignorons toujours les coordonnées de Gaïa ?
Janov, imaginez que vous soyez sur Terminus et que vous vouliez vous rendre à Argyropole, mais sans savoir où se trouve cette ville. Sinon, quelque part dans l'isthme. Eh bien, une fois rendu là-bas, qu'est-ce que vous feriez ?
Pellerat resta prudemment coi, comme s'il sentait qu'on attendait de lui quelques réponses terriblement compliquées. Finalement, en désespoir de cause, il dit
« Je suppose que je demanderai à quelqu'un ?»
Tout juste.
« Que peut-on bien faire d'autre ?
Maintenant, vous êtes prêt ?
Comment ça, tout de suite ?
Pellerat se releva, paniqué, son visage agréablement impassible, prenant ce qui pouvait presque passer pour un air soucieux.
« Que suis-je censé faire ? Rester assis, debout ou quoi ?»
Par l'espace-temps, Pellerat, vous ne faites rien du tout. « Suivez-moi simplement dans ma cabine, que je puisse utiliser l'ordinateur, et puis asseyez-vous, restez debout ou faites la roue, enfin, ce qui vous paraîtra le plus confortable. Je vous suggère, quant à moi, de vous installer devant l'écran et de regarder. Ce sera certainement intéressant. Venez !» Ils empruntèrent donc la longue coursive menant à la cabine de Trévise, et ce dernier s'installa devant la console. « Vous voulez le faire à ma place, Janov ? » demanda-t-il soudain. « Je vous fournirai les chiffres, et tout ce que vous aurez à faire sera de les penser. L'ordinateur se chargera du reste. »«
Non, merci, » dit Pellerat. « Je ne sais pas, mais l'ordinateur ne fonctionne pas aussi bien avec moi. Je sais bien que vous allez dire que c'est une simple question d'entraînement, mais je n'y crois pas. Il y a quelque chose dans votre esprit, Golan.
Ne soyez pas stupide.
Non, non, cet ordinateur a l'air tout bonnement taillé pour vous. On dirait vraiment que vous formez un seul et même organisme, une fois raccordé ensemble. Quand c'est moi, il reste toujours deux éléments distincts. Janov Pellerat et un ordinateur. Ce n'est pas pareil, c'est tout.
Ridicule, dit Trévise, mais l'idée ne lui déplaisait pas. Et c'est avec des doigts caressants qu'il effleura les plaques de contact de l'appareil.
« Alors j'aime autant regarder, » dit Pellerat. « Enfin, j'aimerais autant qu'on se passe de l'opération, mais puisqu'il le faut bien, autant que je regarde. »
Et il fixa d'un œil inquiet l'écran où se dessinait la forme laiteuse de la galaxie derrière une poussière pâle d'étoiles à l'avant-plan.
« Prévenez-moi quand ça va se produire. »
Lentement, il s'adossa contre le mur, prêt à tout. Trévise sourit. Il posa les mains sur les plaques et sentit s'établir la connexion mentale. C'était de jour en jour plus facile. Le contact se faisait toujours plus étroit et pourtant, il pouvait toujours se moquer de Pellerat, mais il ressentait vraiment le contact. Il lui semblait qu'il n'avait qu'à vaguement penser aux coordonnées, comme si l'ordinateur savait ce qu'il désirait sans avoir à passer par le processus complexe de l'énonciation. Il extrayait de lui-même l'information de son cerveau. Trévise lui dit tout de même les chiffres, puis demanda un délai de 2 minutes avant l'exécution. « Parfait, Janov. Nous avons 2 minutes devant nous, 120 secondes. 115, 110, regardez bien l'écran. » Pellerat obéit, retenant son souffle, avec tout juste une légère crispation à la commissure des lèvres. Trévise dit doucement. 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sans aucun mouvement perceptible, sans la moindre sensation, la vue sur l'écran changea. Le champ d'étoiles devint nettement plus dense et la galaxie disparut. Pellerat sursauta.
C'était ça?
C'était ça, quoi? C'est vous qui avez sursauté. Mais c'est de votre faute. Vous n'avez rien senti, reconnaissez-le.
Je le reconnais.
Eh bien, c'était ça. Autrefois, quand les voyages hyperspatiaux étaient encore relativement nouveaux, d'après les livres en tout cas, on éprouvait, paraît-il, une sensation bizarre et certaines personnes avaient le vertige ou la nausée. C'était peut-être psychosomatique ou peut-être pas. En tous les cas, avec l'accumulation de l'expérience et la venue de meilleurs équipements, le phénomène décrut. Avec un ordinateur tel que celui qui équipe notre vaisseau, les effets demeurent bien en dessous du seuil de la perception. Du moins pour moi.
Pour moi également. Je dois l'admettre. Mais où sommes-nous, Golan ?
Juste un petit pas en avant. Dans la région de Kalgan. On a encore du chemin à faire et avant d'effectuer un nouveau saut, il va falloir que je vérifie la précision de celui-ci.
Il y a une chose qui me chiffonne. Où est passée la galaxie ?
Elle est tout autour de nous, Janov. Nous sommes loin à l'intérieur à présent. En réglant convenablement l'écran, on peut voir se dessiner ses portions les plus lointaines sous la forme d'un ruban lumineux traversant le ciel.
la Voie lactée !» s'écria Pellerat aux anges. « Presque tous les mondes la décrivent dans leur ciel. Mais c'est un spectacle qu'on ne peut pas voir sur Terminus. Montrez-la-moi, mon brave compagnon !»
La vue sur l'écran bascula, donnant l'impression que les étoiles refluaient, laissant enfin apparaître une épaisse bande lumineuse et nacrée qui envahit presque tout le champ visuel. L'écran la parcourut tout du long, tandis qu'elle s'effilait puis grossissait de nouveau.
« Elle nous apparaît plus épaisse dans la direction du centre de la galaxie, » expliqua Trévise. « Pas aussi épaisse et lumineuse qu'elle devrait l'être toutefois, à cause des nuages de poussière situés dans les bras de la spirale. À quelque chose près, c'est la vue que l'on a de la plupart des planètes habitées.
Et depuis la Terre également.
Il n'y a pas de différence. Ce ne serait pas une caractéristique spécifique.
Bien sûr que non. Mais dites-moi, vous n'avez pas étudié l'histoire des sciences, n'est-ce pas?
Pas vraiment. Quoique j'en sache quelques bribes, évidemment. Enfin, si vous avez des questions à me poser là-dessus, ne vous attendez pas aux réponses d'un expert.
C'est simplement que le sceau m'a fait repenser à un détail qui m'a toujours intrigué. Il est possible de bâtir une description de l'univers où le voyage hyperspatial est impossible et dans laquelle la célérité de la lumière, dans le vide, représente une limite absolue.
Assurément.
Une fois posées de telles conditions, la géométrie de l'univers apparaît telle qu'il est impossible d'accomplir le trajet que nous venons de faire en moins de temps que n'en mettrait un rayon de lumière pour le parcourir. Et si nous l'accomplissions à la rapidité de la lumière, notre temps subjectif ne correspondrait alors plus à celui de l'univers en général. Mettons qu'on se trouve ici, à, disons, 40 parsecs de Terminus. Alors, si nous avions gagné ce point à la vitesse de la lumière, nous n'aurions certes ressenti aucune distorsion du temps, mais sur Terminus et dans toute la galaxie, près de 130 ans se seraient écoulés. Or, nous avons parcouru cette distance non pas à la vitesse de la lumière, mais en fait mille fois plus rapidement. Et on ne constate nulle part le moindre décalage temporel. Du moins, j'espère que non.
Ne comptez pas sur moi pour vous démontrer mathématiquement la théorie hyperspatiale de Langène, annonça Trévise. Tout ce que je puis dire, c'est que si vous aviez voyagé à la célérité de la lumière dans l'espace normal, le temps aurait effectivement avancé au rythme de 3,26 années par parsec, comme vous l'avez fort justement décrit. Le prétendu univers relativiste tel que l'humanité l'entend, si loin apparemment que l'on puisse remonter dans la préhistoire, mais là c'est votre domaine, je pense, cet univers demeure, et ses lois n'ont jamais été démenties. Lors de nos sauts hyperspatiaux, toutefois, nous nous plaçons hors des conditions dans lesquelles opère la relativité et les règles sont différentes. Du point de vue hyperspatial, la galaxie est un objet minuscule, idéalement un point sans dimension. Et il n'y a pas le moindre effet relativiste. En fait, dans la formulation mathématique de la cosmologie, il existe deux symboles pour représenter la galaxie. GR pour la galaxie relativiste, où la célérité de la lumière est un maximum, et GH pour la galaxie hyperspatiale, où la notion de vitesse n'a pas vraiment de signification. Hyperspatialement, toute mesure de vitesse est égale à zéro, et nous ne nous déplaçons pas. Rapporté à l'espace, cette célérité est toutefois infinie.
Je ne vois guère comment vous expliquer mieux les choses.
Oh, sinon que l'un des plus beaux pièges de la physique théorique consiste à placer un symbole ou une variable pertinente dans le cadre de GR à l'intérieur d'une équation portant sur GH, ou vice-versa, et de laisser l'étudiant se dépatouiller avec.
Il y a de bonnes chances que le malheureux tombe dans le piège et le plus souvent il y reste, suant et soufflant, avec apparemment rien qui ne colle jusqu'à ce qu'un aîné charitable vienne le tirer d'embarras. J'ai bien failli m'y faire prendre une fois.
Pellerat considéra gravement tout ce qu'on venait de lui exposer, puis dit enfin, l'air vaguement perplexe, « Mais laquelle est la véritable galaxie ?»«
Les deux, selon ce que vous faites. Imaginez que vous êtes sur Terminus. Vous pouvez utiliser soit une voiture pour accomplir un trajet par voie de terre, soit emprunter un bateau pour couvrir une distance par mer. Les conditions sont différentes dans chaque cas. Alors, où se trouve la véritable Terminus? À terre ou sur mer?
Pellerat opina. Les analogies sont toujours risquées, mais je préfère accepter celle-ci plutôt que de risquer ma santé mentale à continuer de songer à l'hyperespace.
je crois qu'il vaut mieux que je me concentre sur ce qu'on fait pour l'instant. Vous n'avez qu'à considérer ce qu'on vient de faire comme notre première étape sur le chemin de la Terre. Et, ajouta-t-il pour lui-même, vers quoi d'autre, je me demande.